Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
34e section de Scène de la vie de province, tome 4, Illusion perdue, 3e partie, Ève et David, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Illusion perdue, 3e partie, Ève et David. Le lendemain, Lucien fit viser son passeport, acheta une canne de houx, prit, à la place de la rue d'Enfer, un coucou qui, moyennant 10 sous, le mit à Longjumeau. Pour première étape, il coucha dans l'écurie d'une ferme à 2 lieues d'Arpajon. Quand il eut atteint Orléans, il se trouva déjà bien las et bien fatigué. Mais, pour 3 francs, un batelier le descendit à Tours, et pendant le trajet, il ne dépensa que 2 francs pour sa nourriture. De Tours à Poitiers, Lucien marcha pendant 5 jours. Bien au-delà de Poitiers, il ne possédait plus que 100 sous, mais il rassembla pour continuer sa route un reste de force. Un jour, Lucien fut surpris par la nuit dans une plaine où il résolut de bivouaquer, quand, au fond d'un ravin, il aperçut une calèche montant une côte. À l'insu du postillon, des voyageurs et d'un valet de chambre placé sur le siège, il put se blottir derrière entre 2 paquets et s'endormit en se plaçant de manière à pouvoir résister au chaos. Au matin, réveillé par le soleil qui lui frappait les yeux et par un bruit de voix, il reconnut Mansle, cette petite ville où, 18 mois auparavant, il était allé attendre Madame de Bargeton, le cœur plein d'amour, d'espérance et de joie. Se voyant couvert de poussière, au milieu d'un cercle de curieux et de postillons, il comprit qu'il devait être l'objet d'une accusation. Il sauta sur ses pieds et allait parler quand 2 voyageurs sortis de la calèche lui coupèrent la parole. Il vit le nouveau préfet de la Charente, le comte Sixte du Châtelet et sa femme, Louise de Nègrepelisse. Si nous avions su quel compagnon le hasard nous avait donné, dit la comtesse. « Montez avec nous, monsieur. » Lucien salua froidement ce couple en lui jetant un regard à la fois humble et menaçant. Il se perdit dans un chemin de traverse en avant de Mansle, afin de gagner une ferme où il put déjeuner avec du pain et du lait, se reposer et délibérer en silence sur son avenir. Il avait encore 3 francs. L'auteur des Marguerites, poussé par la fièvre, courut pendant longtemps. Il descendit le cours de la rivière en examinant la disposition des lieux, qui devenaient de plus en plus pittoresques. Vers le milieu du jour, il atteignit à un endroit où la nappe d'eau, environnée de saules, formait une espèce de lac. Il s'arrêta pour contempler ce frais et touffu bocage dont la grâce champêtre agit sur son âme. Une maison attenant à un moulin, assis sur un bras de la rivière, montrait entre les têtes d'arbres son toit de chaume, orné de joubarbes. Cette naïve façade avait pour seuls ornements quelques buissons de jasmin, de chèvrefeuille et de houblon, et tout alentour brillaient les fleurs du phlox et des plus splendides plantes grasses. Sur l'empierrement retenu par un pilotis grossier, qui maintenait la chaussée au-dessus des plus grandes crues, il aperçut des filets étendus au soleil. Des canards nageaient dans le bassin clair qui se trouvait au-delà du moulin, entre les 2 courants d'eau mugissant dans les vannes. Le moulin faisait entendre son bruit agaçant. Sur un banc rustique, le poète aperçut une bonne grosse ménagère tricotant et surveillant un enfant qui tourmentait des poules. « Ma bonne femme, dit Lucien en s'avançant, je suis bien fatigué, j'ai la fièvre et n'ai que 3 francs. Voulez-vous me nourrir de pain bis et de lait, me coucher sur la paille pendant 1 semaine? J'aurai eu le temps d'écrire à mes parents qui m'enverront de l'argent et qui viendront me chercher ici. »« Volontiers, dit-elle, si toutefois mon mari le veut. » Et, petit homme ? Le meunier sortit, regarda Lucien et sauta sa pipe de la bouche pour dire « 3 francs une semaine ? Autant ne vous rien prendre. » « Peut-être finirai-je garçon meunier, » se dit le poète en contemplant ce délicieux paysage, avant de se coucher dans le lit que lui fit la meunière et où il dormit de manière à effrayer ses hôtes. « Courtois, va donc voir si ce jeune homme est mort ou vivant. Voici 14 heures qu'il est couché, je n'ose pas y aller, » dit la meunière le lendemain vers midi. « Je crois, » répondit le meunier à sa femme en achevant d'étaler ses filets et ses engins à prendre le poisson, « que ce joli garçon-là pourrait bien être quelque gringalet de comédien, sans sou ni maille. » « À quoi vois-tu donc cela, petit homme ?» dit la meunière. « Dame, ce n'est ni un prince, ni un ministre, ni un député, ni un évêque. D'où vient que ses mains sont blanches comme celles d'un homme qui ne fait rien ?» « Il est alors bien étonnant que la faim ne l'éveille pas, » dit la meunière qui venait d'apprêter un déjeuner pour l'hôte que le hasard leur avait envoyé la veille. « Un comédien ? » reprit-elle. « Où irait-il ? Ce n'est pas encore le moment de la foire à Angoulême. » Ni le meunier, ni la meunière ne pouvaient se douter qu'à part le comédien, le prince et l'évêque, il est un homme à la fois prince et comédien, un homme revêtu d'un magnifique sacerdoce, le poète qui semble ne rien faire et qui néanmoins règne sur l'humanité quand il a su la peindre. « Qui serait-ce donc ? » dit Courtois à sa femme. « Y aurait-il du danger à le recevoir ? » demanda la meunière. « Bah, les voleurs sont plus dégourdis que ça. Nous serions déjà dévalisés, » reprit le meunier. « Je ne suis ni prince, ni voleur, ni évêque, ni comédien, » dit tristement Lucien qui se montra soudain et qui sans doute avait entendu par la croisée le colloque de la femme et du mari. « Je suis un pauvre jeune homme, fatigué, venu à pied de Paris ici. Je me nomme Lucien de Rubempré et suis le fils de Monsieur Chardon, le prédécesseur de Postel, le pharmacien de L'Houmeau. Ma sœur a épousé David Séchard, l'imprimeur de la place du Muriel à Angoulême. « Attendez donc, » dit le meunier, « cet imprimeur-là n'est-il pas le fils du vieux malin qui fait valoir son domaine de Marsac ?»« Précisément, » répondit Lucien. « Un drôle de père, allez, » reprit Courtois. « Il fait, dit-on, tout vendre chez son fils et il a pour plus de 200 000 francs de biens, sans compter son esquipole. » Lorsque l'âme et le corps ont été brisés dans une longue et douloureuse lutte, l'heure où les forces sont dépassées est suivie ou de la mort ou d'un anéantissement pareil à la mort, mais où les natures capables de résister reprennent alors des forces. Lucien, en proie à une crise de ce genre, parut près de succomber au moment où il apprit, quoique vaguement, la nouvelle d'une catastrophe arrivée à David Séchard, son beau-frère. « Oh, ma sœur, s'écria-t-il, qu'ai-je fait, mon Dieu, je suis un infâme !» Puis il se laissa tomber sur un banc de bois, dans la pâleur et l'affaissement d'un mourant. La meunière s'empressa de lui apporter une jatte de lait, qu'elle le força de boire. Mais il pria le meunier de l'aider à se mettre sur son lit, en lui demandant pardon de lui donner l'embarras de sa mort, car il crut sa dernière heure arrivée. En apercevant le fantôme de la mort, ce gracieux poète fut pris d'idées religieuses. Il voulut voir le curé, se confesser et recevoir les sacrements. De telles plaintes exhalées d'une voix faible par un garçon doué d'une charmante figure et aussi bien fait que Lucien, touchèrent vivement Madame Courtois. « Dis donc, petit homme, monte à cheval et va donc quérir Monsieur Marron, le médecin de Marsac. » Il verra ce qu'a ce jeune homme, qui ne me paraît point en bon état, et tu ramèneras aussi le curé. Peut-être sauront-ils mieux que toi ce qui en est de cet imprimeur de la place du Mûrier, puisque Postel est le genre de Monsieur Marron. Courtois parti, la meunière, imbue comme tous les gens de la campagne de cette idée que la maladie exige de la nourriture, restaura Lucien qui se laissa faire, en s'abandonnant alors moins à sa prostration qu'à de violents remords. Le moulin de Courtois se trouvait à 1 lieue de Marsac, chef-lieu de canton, situé à mi-chemin de Mansle et d'Angoulême. Mais le brave meunier ramena d'autant plus promptement le médecin et le curé de Marsac que l'un et l'autre avaient entendu parler de la liaison de Lucien avec madame de Bargeton et que tout le département de la Charente causait en ce moment du mariage de cette dame et de sa rentrée à Angoulême avec le nouveau préfet, le comte Sixte du Châtelet. Aussi, en apprenant que Lucien était chez le meunier, le médecin comme le curé brûlèrent-ils du désir de connaître les raisons qui avaient empêché la veuve de monsieur de Bargeton d'épouser le jeune poète avec lequel elle s'était enfuie, et de savoir s'il revenait au pays pour secourir son beau-frère, David Séchard. La curiosité, l'humanité, tout se réunissait si bien pour amener promptement des secours au poète mourant que, 2 heures après le départ de Courtois, Lucien entendit sur la chaussée pierreuse du moulin le bruit de ferraille que rendait le méchant cabriolet du médecin de campagne. Messieurs Marron se montrèrent aussitôt, car le médecin était le neveu du curé. Ainsi Lucien voyait en ce moment des gens aussi liés avec le père de David Séchard que peuvent l'être des voisins dans un petit bourg vignoble. Quand le médecin eut observé le mourant, lui eut tâté le pouls, examiné la langue, il regarda la meunière en souriant. « Madame Courtois, dit-il, si comme je n'en doute pas, vous avez à la cave quelque bonne bouteille de vin et dans votre sentineau quelque bonne anguille, servez-les à votre malade qui n'a pas autre chose qu'une courbature, et cela fait, il sera promptement sur pied. « Ah, monsieur, dit Lucien, mon mal n'est pas au corps mais à l'âme. » Et ces braves gens m'ont dit une parole qui m'a tué en m'annonçant des désastres chez ma sœur, madame Séchard. Au nom de Dieu, vous qui, si j'en crois madame Courtois, avez marié votre fille à Postel, vous devez savoir quelque chose des affaires de David Séchard.
Mais il doit être en prison, répondit le médecin. Son père a refusé de le secourir.
En prison ? Reprit Lucien. Et pourquoi ?
Et pour des traites venues de Paris qu'il avait sans doute oubliées, car il ne passe pas pour savoir trop ce qu'il fait, répondit monsieur Marron.
Laissez-moi, je vous prie, avec monsieur le curé, dit le poète, dont la physionomie s'altéra gravement. Le médecin, le meunier et sa femme sortirent. Quand Lucien se vit seul avec le vieux prêtre, il s'écria « Je mérite la mort que je sens venir, monsieur, et je suis un bien grand misérable qui n'a plus qu'à se jeter dans les bras de la religion. » C'est moi, monsieur, qui suis le bourreau de ma sœur et de mon frère, car David Séchard est un frère pour moi. J'ai fait les billets que David n'a pas pu payer. Je l'ai ruiné. Dans l'horrible misère où je me suis trouvé, j'oubliais ce crime. » Et Lucien raconta ses malheurs. Quand il eut achevé ce poème digne d'un poète, il supplia le curé d'aller à Angoulême et de s'enquérir auprès d'Ève, sa sœur, et de sa mère, madame Chardon, du véritable état des choses, afin qu'il sût s'il pouvait encore y remédier. « Jusqu'à votre retour, monsieur, dit-il en pleurant à chaudes larmes, je pourrai vivre. Si ma mère, si ma sœur, si David ne me repousse pas, je ne mourrai point. » La fiévreuse éloquence du Parisien, les larmes de ce repentir effrayant, ce beau jeune homme pâle et quasi mourant de son désespoir, le récit d'infortune qui dépassait les forces humaines, tout excita la pitié, l'intérêt du curé. « En province, comme à Paris, monsieur, lui répondit-il, il ne faut croire que la moitié de ce qu'on dit. Ne vous épouvantez pas d'une rumeur qui, à 3 lieues d'Angoulême, doit être très erronée. Le vieux Séchard, notre voisin, a quitté Marsac depuis quelques jours. Ainsi, probablement, il s'occupe à pacifier les affaires de son fils. Je vais à Angoulême et reviendrai vous dire si vous pouvez rentrer dans votre famille, auprès de laquelle vos aveux, votre repentir, m'aideront à plaider votre cause. » Le curé ne savait pas que, depuis 18 mois, Lucien s'était tant de fois repenti que son repentir, quelque violent qu'il fût, n'avait d'autre valeur que celle d'une scène parfaitement jouée, et jouée encore de bonne foi. Au curé succéda le médecin. En reconnaissant chez le malade une crise nerveuse qui pouvait devenir funeste, le neveu fut aussi consolant que l'avait été l'oncle, et finit par déterminer son malade à se restaurer. Le curé, qui connaissait le pays et ses habitudes, avait gagné Mansle, où la voiture de Ruffec à Angoulême ne devait pas tarder à passer et dans laquelle il eut une place.
Le vieux prêtre comptait demander des renseignements sur David Séchard à son petit-neveu Postel, le pharmacien de L'Houmeau, l'ancien rival de l'imprimeur auprès de la belle Ève. À voir les précautions que prit le petit pharmacien pour aider le vieillard à descendre de l'affreuse patache qui faisait alors le service de Ruffec à Angoulême, le spectateur le plus obtus eût deviné que monsieur et madame Postel hypothéquaient leur bien-être sur sa succession. « Avez-vous déjeuné? Voulez-vous quelque chose? Nous ne vous attendions point et nous sommes agréablement surpris. » Ce fut mille questions à la fois. Madame Postel était bien prédestinée à devenir la femme d'un pharmacien de L'Houmeau. De la taille du petit Postel, elle avait la figure rouge d'une fille élevée à la campagne. Sa tournure était commune et toute sa beauté consistait dans une grande fraîcheur. Sa chevelure rousse, plantée très bas sur le front, ses manières et son langage appropriés à la simplicité gravée dans les traits d'un visage rond, des yeux presque jaunes, tout en elle disait qu'elle avait été mariée pour ses espérances de fortune. Aussi, déjà commandait-elle après un an de ménage, et paraissait-elle s'être entièrement rendue maîtresse de Postel, trop heureux d'avoir trouvé cette héritière. Madame Léonie Postel, née Marron, nourrissait un fils, l'amour du vieux curé, du médecin et de Postel, un horrible enfant qui ressemblait à son père et à sa mère. « Eh bien, mon oncle, que venez-vous donc faire à Angoulême ?» dit Léonie, « puisque vous ne voulez rien prendre et que vous parlez de nous quitter aussitôt entrés. » Dès que le digne ecclésiastique eut prononcé le nom d'Ève et de David Séchard, Postel rougit, et Léonie jeta sur le petit homme ce regard de jalousie obligée qu'une femme entièrement maîtresse de son mari ne manque jamais à exprimer pour le passé dans l'intérêt de son avenir. « Qu'est-ce qu'ils vous ont donc fait, ces gens-là ? Mon oncle, pour que vous vous mêliez de leurs affaires, dit Léonie avec une visible aigreur. Ils sont malheureux, ma fille, répondit le curé qui peignit à Postel l'état dans lequel se trouvait Lucien chez les Courtois. Ah, voilà dans quel équipage il revient de Paris, s'écria Postel. Pauvre garçon, il avait de l'esprit cependant, et il était ambitieux. Il allait chercher du grain, et il revient sans paille. Mais que vient-il faire ici? Sa sœur est dans la plus affreuse misère, car tous ces génies-là, ce David tout comme Lucien, ça ne se connaît guère en commerce. Nous avons parlé de lui au tribunal, et, comme juge, j'ai dû signer son jugement. Ça m'a fait un mal. Je ne sais pas si Lucien pourra, dans les circonstances actuelles, aller chez sa sœur, mais en tout cas, la petite chambre qu'il occupait ici est libre, et je la lui offre volontiers. « Bien, Postel, dit le prêtre en mettant son tricorne et se disposant à quitter la boutique après avoir embrassé l'enfant qui dormait dans les bras de Léonie. « Vous dînerez sans doute avec nous, mon oncle, dit madame Postel, car vous n'aurez pas promptement fini si vous voulez débrouiller les affaires de ces gens-là. Mon mari vous reconduira dans sa carriole avec son petit cheval. » Les deux époux regardèrent leur précieux grand-oncle s'en allant vers Angoulême. « Il va bien tout de même pour son âge, » dit le pharmacien. Pendant que le vénérable septuagénaire monte les rampes d'Angoulême, il n'est pas inutile d'expliquer dans quel lacis d'intérêt il allait mettre le pied. Fin de la 34e section. Trente-cinquième section de Scènes de la vie de province, tome 4, Illusion perdue, troisième partie. Ève et David, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Après le départ de son beau-frère pour Paris, David Séchard, ce bœuf, courageux et intelligent comme celui que les peintres donnent pour compagnon à l'évangéliste, n'eut qu'une idée, celle de faire une grande et rapide fortune, moins pour lui que pour Ève et pour Lucien, ces deux charmants êtres auxquels il s'était consacré. Mettre sa femme dans la sphère d'élégance et de richesse où elle devait vivre, soutenir de son bras puissant l'ambition de son frère, tel fut le programme écrit en lettres de feu devant ses yeux. ce patient génie mis par Lucien sur la trace d'une invention dont s'était occupé Chardon le père et dont la nécessité devait se faire sentir de jour en jour, se livra sans en rien dire à personne, pas même à sa femme, à cette recherche pleine de difficultés. Après avoir embrassé par un coup d'œil l'esprit de son temps, le possesseur de la pauvre imprimerie de la rue du Mûrier, écrasé par les frères Cointet, devina le rôle que l'imprimerie allait jouer. Les journaux, la politique, l'immense développement de la librairie et de la littérature, celui des sciences, la pente à une discussion publique de tous les intérêts du pays, tout le mouvement social qui se déclara lorsque la Restauration parut assise, exigeait une production de papier presque décuple comparée à la quantité sur laquelle spécula le célèbre ouvrard au commencement de la Révolution, guidé par de semblables motifs. En 1822, les papeteries étaient trop nombreuses en France pour qu'on pût espérer de s'en rendre le possesseur exclusif, comme fit Ouvrard qui s'empara des principales usines après avoir accaparé leurs produits. David n'avait d'ailleurs ni l'audace ni les capitaux nécessaires à de pareilles spéculations. Or, tant que pour ses fabrications la papeterie s'en tiendrait au chiffon, le prix du papier ne pouvait que hausser. On ne force pas la production du chiffon. Le chiffon est le résultat de l'usage du linge et la population d'un pays n'en donne qu'une quantité déterminée. Cette quantité ne peut s'accroître que par une augmentation dans le chiffre des naissances. Pour opérer un changement sensible dans sa population, un pays veut un quart de siècle et de grandes révolutions dans les mœurs, dans le commerce ou dans l'agriculture. Si donc les besoins de la papeterie devenaient supérieurs à ce que la France produisait de chiffons, soit du double, soit du triple, il fallait, pour maintenir le papier à bas prix, introduire dans la fabrication du papier un élément autre que le chiffon. Ce raisonnement reposait d'ailleurs sur les faits. Les papeteries d'Angoulême, les dernières où se fabriquèrent des papiers avec du chiffon de fil, voyaient le coton envahissant la pâte dans une progression effrayante. En même temps que Lord Stanhope inventait la presse en fer et qu'on parlait des presses mécaniques de l'Amérique, la mécanique à faire le papier de toute longueur commençait à fonctionner en Angleterre. Ainsi, les moyens s'adaptaient aux besoins de la civilisation française actuelle, qui repose sur la discussion étendue à tout et sur une perpétuelle manifestation de la pensée individuelle. Un vrai malheur, car les peuples qui délibèrent agissent très peu. Chose étrange, pendant que Lucien entrait dans les rouages de l'immense machine du journalisme, au risque d'y laisser son honneur et son intelligence en lambeaux, David Séchard, du fond de son imprimerie, embrassait le mouvement de la presse périodique dans ses conséquences matérielles. Armé par Lucien de l'idée première que M. Chardon père avait eue sur la solution de ce problème d'industrie, il voulait mettre les moyens en harmonie avec le résultat vers lequel tendait l'esprit du siècle. Enfin, il voyait juste en cherchant une fortune dans la fabrication du papier à bas prix, car l'événement a justifié la prévoyance du sagace imprimeur d'Angoulême. Pendant ces 15 dernières années, le bureau chargé des demandes de brevets d'invention a reçu plus de 100 requêtes de prétendues découvertes de substances à introduire dans la fabrication du papier. Ce dévoué jeune homme, certain de l'utilité de cette découverte, sans éclat, mais d'un immense profit, tomba donc, après le départ de son beau-frère pour Paris, dans la constante préoccupation que devait causer la recherche d'une pareille solution. Comme il avait épuisé toutes ses ressources pour se marier et pour subvenir aux dépenses du voyage de Lucien à Paris, il se vit au début de son mariage dans la plus profonde misère. Il avait gardé 1000 francs pour les besoins de son imprimerie et devait un billet de pareille somme à Postel, le pharmacien. Ainsi, pour ce profond penseur, le problème fut double. Il fallait inventer, et inventer promptement. Il fallait, enfin, adapter les profits de la découverte aux besoins de son ménage et de son commerce. Or, quelle épithète donner à la cervelle capable de secouer les cruelles préoccupations que causent et une indigence à cacher et le spectacle d'une famille sans pain et les exigences journalières d'une profession aussi méticuleuse que celle de l'imprimeur, tout en parcourant les domaines de l'inconnu avec l'ardeur et les enivrements du savant à la poursuite d'un secret qui, de jour en jour, échappe aux plus subtiles recherches. Hélas! Comme on va le voir, les inventeurs ont bien encore d'autres maux à supporter, sans compter l'ingratitude des masses à qui les oisifs et les incapables disent d'un homme de génie « Il était né pour devenir inventeur, il ne pouvait pas faire autre chose. » Il ne faut pas plus lui savoir gré de sa découverte qu'on ne sait gré à un homme d'être né prince. Il exerce des facultés naturelles, et il a d'ailleurs trouvé sa récompense dans le travail même. Le mariage cause à une jeune fille de profondes perturbations morales et physiques. Mais, en se mariant dans les conditions bourgeoises de la classe moyenne, elle doit de plus étudier des intérêts tout nouveaux et s'initier à des affaires. De là, pour elle, une phase où nécessairement elle reste en observation sans agir. L'amour de David pour sa femme en retarda malheureusement l'éducation. Il n'osa pas lui dire l'état des choses, ni le lendemain des noces, ni les jours suivants. Malgré la détresse profonde à laquelle le condamnait l'avarice de son père, le pauvre imprimeur ne put se résoudre à gâter sa lune de miel par le triste apprentissage de sa profession laborieuse et par les enseignements nécessaires à la femme d'un commerçant. Aussi, les 1000 francs, le seul avoir, furent-ils dévorés plus par le ménage que par l'atelier. L'insouciance de David et l'ignorance de sa femme dura 3 mois. Le réveil fut terrible. À l'échéance du billet souscrit par David à Postel, le ménage se trouva sans argent, et la cause de cette dette était assez connue à Ève pour qu'elle sacrifiât à son acquittement et ses bijoux de mariée et son argenterie. Le soir même du paiement de cet effet, Ève voulut faire causer David sur ses affaires, car elle avait remarqué qu'il s'occupait de toute autre chose que de son imprimerie. En effet, dès le second mois de son mariage, David passa la majeure partie de son temps sous l'appentis situé au fond de la cour, dans une petite pièce qui lui servait à fondre ses rouleaux. 3 mois après son arrivée à Angoulême, il avait substitué aux pelotes à tamponner les caractères, l'encrier à table et à cylindre, où l'encre se façonne et se distribue au moyen de rouleaux composés de colle forte et de mélasse. Ce premier perfectionnement de la typographie fut tellement incontestable qu'aussitôt après en avoir vu l'effet, les frères Cointet l'adoptèrent. David avait adossé au mur mitoyen de cette espèce de cuisine un fourneau à bassine en cuivre, sous prétexte de dépenser moins de charbon pour refondre ses rouleaux, dont les moules rouillés étaient rangés le long de la muraille, et qu'il ne refondit pas 2 fois. Non seulement il mit à cette pièce une solide porte en chêne, intérieurement garnie en tôle, mais encore il remplaça les sales carreaux du châssis d'où venait la lumière par des vitres en verre cannelé, pour empêcher de voir du dehors l'objet de ses occupations. En premier mot que dit Ève à David au sujet de leur avenir, il la regarda d'un air inquiet et l'arrêta par ces paroles. « Mon enfant, je sais tout ce que doit inspirer la vue d'un atelier désert et l'espèce d'anéantissement commercial où je reste. Mais vois-tu, reprit-il en l'amenant à la fenêtre de leur chambre et lui montrant le réduit mystérieux, notre fortune est là. Nous aurons à souffrir encore pendant quelques mois. Mais souffrons avec patience et laisse-moi résoudre un problème d'industrie qui fera cesser toutes nos misères. » David était si bon, son dévouement devait être si bien cru sur parole, que la pauvre femme, préoccupée comme toutes les femmes de la dépense journalière, se donna pour tâche de sauver à son mari les ennuis du ménage. Elle quitta donc la jolie chambre bleue et blanche où elle se contentait de travailler à des ouvrages de femme, en devisant avec sa mère, et descendit dans une des 2 cages de bois situées au fond de l'atelier pour étudier le mécanisme commercial de la typographie. Durant ces 3 mois, l'inerte imprimerie de David avait été désertée par les ouvriers jusqu'alors nécessaires à ses travaux et qui s'en allèrent un à un. Accablés de besogne, les frères Cointet employaient non seulement les ouvriers du département alléchés par la perspective de faire chez eux de fortes journées, mais encore quelques-uns de Bordeaux, d'où venaient surtout les apprentis qui se croyaient assez habiles pour se soustraire aux conditions de l'apprentissage. En examinant les ressources que pouvait présenter l'imprimerie Séchard, Ève n'y trouva plus que 3 personnes. D'abord, l'apprenti que David se plaisait à former chez les Didot, comme font presque tous les protes qui, dans le grand nombre d'ouvriers auxquels ils commandent, s'attachent plus particulièrement à quelques-uns d'entre eux. David avait emmené cet apprenti nommé Cérizet à Angoulême, où il s'était perfectionné, puis Marion, attaché à la maison comme un chien de garde. Enfin, Kolb, un Alsacien, jadis homme de peine chez messieurs Didot. Pris par le service militaire, Kolb se trouva par hasard à Angoulême, où David le reconnut à une revue, au moment où son temps de service expirait. Kolb alla voir David et s'amouracha de la grosse Marion, en découvrant chez elle toutes les qualités qu'un homme de sa classe demande à une femme. Cette santé vigoureuse qui brunit les joues, cette force masculine qui permettait à Marion de soulever une forme de caractère avec aisance, cette probité religieuse à laquelle tiennent les Alsaciens, ce dévouement à ses maîtres qui révèle un bon caractère, et enfin cette économie à laquelle elle devait une petite somme de 1000 francs, du linge, des robes et des effets d'une propreté provinciale. Marion, grosse et grasse, âgée de 36 ans, assez flattée de se voir l'objet des attentions d'un cuirassier haut de 5 pieds 7 pouces, bien bâti, fort comme un bastion, lui suggéra naturellement l'idée de devenir imprimeur. Au moment où l'Alsacien reçut son congé définitif, Marion et David en avaient fait un ours assez distingué, qui ne savait néanmoins ni lire ni écrire. La composition des ouvrages dits de ville ne fut pas tellement abondante pendant ce trimestre que Cérizet n'eût pu y suffire. À la fois compositeur, metteur en page et prote de l'imprimerie, Cérizet réalisait ce que Kant appelle une triplicité phénoménale. Il composait, il corrigeait sa composition, il inscrivait les commandes et dressait les factures. Mais, le plus souvent, sans ouvrage, il lisait des romans, dans sa cage, au fond de l'atelier, attendant la commande d'une affiche ou d'un billet de faire-part. Marion, formée par Séchard père, façonnait le papier, le trempait, aidait Kolb à l'imprimer, l'étendait, le rognait, et n'en faisait pas moins la cuisine, allant au marché de grand matin. Quand Ève se fit rendre compte de ce premier trimestre par Cérizet, elle trouva que la recette était de 400 francs. La dépense, à raison de 3 francs par jour, pour Cérizet et Kolb, qui avaient pour leur journée l'un 2 et l'autre 1 franc, s'élevait à 300 francs. Or, comme le prix des fournitures exigées par les ouvrages fabriqués et livrés se montait à 100 et quelques francs, il fut clair pour Ève que pendant les 3 premiers mois de son mariage, David avait perdu ses loyers, l'intérêt des capitaux représentés par la valeur de son matériel et de son brevet, les gages de Marion, l'encre et enfin les bénéfices que doit faire un imprimeur, ce monde de choses exprimé en langage d'imprimerie par le mot « étoffe », expression due au drap, aux soieries employées à rendre la pression de la vis moins dure au caractère par l'interposition d'un carré d'étoffe, le blanchet, entre la platine de la presse et le papier qui reçoit l'impression. Après avoir compris en gros les moyens de l'imprimerie et ses résultats, Ève devina combien peu de ressources offrait cet atelier desséché par l'activité dévorante des frères Cointet, à la fois fabricants de papier, journalistes, imprimeurs, brevetés de l'évêché, fournisseurs de la ville et de la préfecture. Le journal que, 2 ans auparavant, les Séchard père et fils avaient vendu 22 000 francs rapportait alors 18 000 francs par an. Ève reconnut les calculs cachés sous l'apparente générosité des frères Cointet qui laissaient à l'imprimerie Séchard assez d'ouvrages pour subsister et pas assez pour qu'elle leur fît concurrence. En prenant la conduite des affaires, elle commença par dresser un inventaire exact de toutes les valeurs. Elle employa Kolb, Marion et Cérizet à ranger l'atelier, le nettoyer et y mettre de l'ordre. Puis, par une soirée où David revenait d'une excursion dans les champs, suivi d'une vieille femme qui lui portait un énorme paquet enveloppé de linge, Ève lui demanda des conseils pour tirer parti des débris que leur avait laissés le père Séchard, en lui promettant de diriger à elle seule les affaires. D'après l'avis de son mari, Madame Séchard employa tous les restants de papier qu'elle avait trouvés et mis par espèces à imprimer sur deux colonnes et sur une seule feuille ces légendes populaires coloriées que les paysans collent sur les murs de leurs chaumières. L'histoire du juif errant, Robert le diable, la belle Maguelone, le récit de quelques miracles. Ève fit de Kolb un colporteur. Cérizet ne perdit pas un instant, il composa ses pages naïves et leurs grossiers ornements depuis le matin jusqu'au soir. Marion suffisait au tirage. Madame Chardon se chargea de tous les soins domestiques, car Ève coloria les gravures. En deux mois, grâce à l'activité de Kolb et à sa probité, Madame Séchard vendit, à 12 lieues à la ronde d'Angoulême, 3 000 feuilles qui lui coûtèrent 30 francs à fabriquer et qui lui rapportèrent à raison de 2 sous pièce 300 francs. Mais quand toutes les chaumières et les cabarets furent tapissés de ces légendes, il fallut songer à quelque autre spéculation, car l'Alsacien ne pouvait pas voyager au-delà du département. Ève, qui remuait tout dans l'imprimerie, y trouva la collection des figures nécessaires à l'impression d'un almanach dit des bergers, où les choses sont représentées par des signes, par des images, des gravures en rouge, en noir ou en bleu. Le vieux Séchard, qui ne savait ni lire ni écrire, avait jadis gagné beaucoup d'argent à imprimer ce livre destiné à ceux qui ne savent pas lire. Cet almanach, qui se vend un sou, consiste en une feuille pliée 64 fois, ce qui constitue un in 64 de 128 pages. Tout heureuse du succès de ces feuilles volantes, industrie à laquelle s'adonnent surtout les petites imprimeries de province, Madame Séchard entreprit l'almanach des bergers sur une grande échelle en y consacrant ses bénéfices. Le papier de l'almanach des bergers, dont plusieurs millions d'exemplaires se vendent annuellement en France, est plus grossier que celui de l'almanach liégeois et coûte environ 4 francs la rame. Imprimé, cette rame, qui contient 500 feuilles, se vend donc à raison d'un sou la feuille, 25 francs. Madame Séchard résolut d'employer 100 rames à un premier tirage, ce qui faisait 50 000 almanachs à placer et 2 000 francs de bénéfices à recueillir. Quoique distrait, comme devait l'être un homme si profondément occupé, David fut surpris, en donnant un coup d'œil à son atelier, d'entendre grogner une presse et de voir Cérizet toujours debout composant sous la direction de Madame Séchard. Le jour où il y entra pour surveiller les opérations entreprises par Ève, ce fut un beau triomphe pour elle que l'approbation de son mari qui trouva l'affaire de l'almanach excellente. Aussi David promit-il ses conseils pour l'emploi des encres de diverses couleurs que nécessitent les configurations de cet almanach où tout parle aux yeux. Enfin, il voulut refondre lui-même les rouleaux dans son atelier mystérieux pour aider, autant qu'il le pouvait, sa femme dans cette grande petite entreprise. Au milieu de cette activité furieuse, vinrent les désolantes lettres par lesquelles Lucien apprit à sa mère, à sa sœur et à son beau-frère son insuccès et sa détresse à Paris. On doit comprendre, alors, qu'en envoyant à cet enfant gâté 300 francs, Ève, Madame Chardon et David avaient offert au poète, chacun de leur côté, le plus pur de leur sang. Accablé par ces nouvelles et désespéré de gagner si peu en travaillant avec tant de courage, Ève n'accueillit pas sans effroi l'événement qui met le comble à la joie des jeunes ménages. En se voyant sur le point de devenir mère, elle se dit « Si mon cher David n'a pas atteint le but de ses recherches au moment de mes couches, que deviendrons-nous? Et qui conduira les affaires naissantes de notre pauvre imprimerie ?» L'almanach des bergers devait être bien fini avant le 1er janvier. Or, Cérizet, sur qui roulait toute la composition, y mettait une lenteur d'autant plus désespérante que Madame Séchard ne connaissait pas assez l'imprimerie pour le réprimander. Elle se contenta d'observer ce jeune Parisien. orphelin du grand hospice des enfants trouvés de Paris, Cérizet avait été placé chez messieurs Didot comme apprenti. De 14 à 17 ans, il fut le séide de Séchard, qui le mit sous la direction d'un des plus habiles ouvriers et qui en fit son gamin, son page typographique. Car David s'intéressa naturellement à Cérizet en lui trouvant de l'intelligence, et il conquit son affection en lui procurant quelques plaisirs et des douceurs que lui interdisait son indigence. Doué d'une assez jolie petite figure chafouine, à chevelure rousse, les yeux d'un bleu trouble, Cérizet importa les mœurs du gamin de Paris dans la capitale de l'Angoumois. Son esprit vif et railleur, sa malignité l'y rendirent redoutable. Moins surveillé par David à Angoulême, soit que plus âgé, il inspira plus de confiance à son mentor, soit que l'imprimeur comptât sur l'influence de la province, Cérizet devint à l'insu de son tuteur le don Juan en casquette de trois ou quatre petites ouvrières et se déprava complètement. Sa moralité, fille des cabarets parisiens, prit l'intérêt personnel pour unique loi. D'ailleurs, Cérizet, qui, selon l'expression populaire, devait tirer à la conscription l'année suivante, se voyait sans carrière. Aussi fit-il des dettes en pensant que dans 6 mois il deviendrait soldat et qu'alors aucun de ses créanciers ne pourrait courir après lui. David conservait quelque autorité sur ce garçon, non pas à cause de son titre de maître, non pas pour s'être intéressé à lui, mais parce que l'ex-gamin de Paris reconnaissait en David une haute intelligence. Cérizet fraternisa bientôt avec les ouvriers décointés, attirés vers eux par la puissance de la veste, de la blouse, enfin par l'esprit de corps, plus influent peut-être dans les classes inférieures que dans les classes supérieures. Dans cette fréquentation, Cérizet perdit le peu de bonne doctrine que David lui avait inculquée. Néanmoins, quand on le plaisantait sur les sabots de son atelier, terme de mépris donné par les ours aux vieilles presses des Séchard, en lui montrant les magnifiques presses en fer au nombre de 12 qui fonctionnaient dans l'immense atelier des Cointets, où la seule presse en bois existant servait à faire les épreuves, il prenait encore le parti de David et jetait avec orgueil ses paroles au nez des blagueurs. « Avec ses sabots, mon naïf ira plus loin que les vôtres avec leurs bilboquets en fer, d'où il ne sort que des livres de messe. Il cherche un secret qui fera la queue à toutes les imprimeries de France et de Navarre. » En attendant, méchant prote à 40 sous, tu as pour bourgeois une repasseuse, lui répondait-on. Tiens, elle est jolie, répliquait Cérizet, et c'est plus agréable à voir que les mufles de vos bourgeois. Est-ce que la vue de sa femme te nourrit? De la sphère du cabaret ou de la porte de l'imprimerie où ces disputes amicales avaient lieu, quelques lueurs parvinrent aux frères Cointet sur la situation de l'imprimerie Séchard. Ils apprirent la spéculation tentée par Ève et jugèrent nécessaire d'arrêter dans son essor une entreprise qui pouvait mettre cette pauvre femme dans une voie de prospérité. « Donnons-lui sur les doigts, afin de la dégoûter du commerce », se dirent les deux frères. Celui des deux Cointet qui dirigeait l'imprimerie rencontra Cérizet et lui proposa de lire des épreuves pour eux, à temps par épreuve, pour soulager leurs correcteurs qui ne pouvaient suffire à la lecture de leurs ouvrages. En travaillant quelques heures de nuit, Cérizet gagna plus avec les frères Cointet qu'avec David Séchard pendant sa journée. Il s'ensuivit quelques relations entre les Cointet et Cérizet, à qui l'on reconnut de grandes facultés et complaignit d'être placé dans une situation si défavorable à ses intérêts. « Vous pourriez, lui dit un jour l'un des Cointet, devenir prote d'une imprimerie considérable où vous gagneriez 6 francs par jour, et avec votre intelligence vous arriveriez à vous faire intéresser un jour dans les affaires. » « À quoi cela peut-il me servir d'être un bon prote ?» répondit Cérizet. « Je suis orphelin, je fais partie du contingent de l'année prochaine, et si je tombe au sort, qui est-ce qui me paiera un homme ?»« Si vous vous rendez utile, » répondit le riche imprimeur, « pourquoi ne vous avancerait-on pas la somme nécessaire à votre libération ?»« Ce ne sera toujours pas mon naïf, » dit Cérizet. « Bah, peut-être aura-t-il trouvé le secret qu'il cherche ?» Cette phrase fut dite de manière à réveiller les plus mauvaises pensées chez celui qui l'écoutait. Aussi, Cérizet lança-t-il au fabricant de papier un regard qui valait la plus pénétrante interrogation. « Je ne sais pas de quoi il s'occupe, » répondit-il prudemment en trouvant le bourgeois muet, « mais ce n'est pas un homme à chercher des capitales dans son bas de casse. » Tenez, mon ami, dit l'imprimeur en prenant 6 feuilles du paroissien du diocèse et les tendant à Cérizet, si vous pouvez nous avoir corrigé cela pour demain, vous aurez demain 18 francs. Nous ne sommes pas méchants, nous faisons gagner de l'argent aux prods de notre concurrent. Enfin, nous pourrions laisser Madame Séchard s'engager dans l'affaire de l'almanach des bergers et la ruiner. Eh bien, nous vous permettons de lui dire que nous avons entrepris un almanach des bergers et de lui faire observer qu'elle n'arrivera pas la première sur la place. » On doit comprendre maintenant pourquoi Cérizet allait si lentement sur la composition de l'almanach. En apprenant que les cointets troublaient sa pauvre petite spéculation, Ève fut saisie de terreur et voulut voir une preuve d'attachement dans la communication assez hypocritement faite par Cérizet de la concurrence qui l'attendait. Mais elle surprit bientôt chez son unique compositeur quelques indices d'une curiosité trop vive qu'elle voulut attribuer à son âge. « Cérizet, lui dit-elle un matin, vous vous posez sur le pas de la porte et vous attendez M. Séchard au passage afin d'examiner ce qu'il cache. Vous regardez dans la cour quand il sort de l'atelier à fondre les rouleaux, au lieu d'achever la composition de notre almanach. Tout cela n'est pas bien, surtout quand vous me voyez, moi, sa femme, respectant ses secrets et me donnant tant de mal pour lui laisser la liberté de se livrer à ses travaux. Si vous n'aviez pas perdu tant de temps, l'almanach serait fini. Kolb en vendrait déjà, les cointets ne pourraient nous faire aucun tort. » « Eh, madame, répondit Cérizet, pour 40 sous par jour que je gagne ici, croyez-vous que ce ne soit pas assez de vous faire pour 100 sous de composition ? Mais si je n'avais pas des épreuves à lire le soir pour les frères Cointet, je pourrais bien me nourrir de son. » Vous êtes ingrat de bonne heure. Vous ferez votre chemin, répondit Ève, atteinte au cœur moins par les reproches de Cérizet que par la grossièreté de son accent, par sa menaçante attitude et par l'agression de ses regards. Ce ne sera toujours pas avec une femme pour bourgeois, car alors le mois n'a pas souvent 30 jours. En se sentant blessée dans sa dignité de femme, Ève jeta sur Cérizet un regard foudroyant et remonta chez elle. Quand David vint dîner, elle lui dit « Es-tu sûr, mon ami, de ce petit drôle de Cérizet ?»« Cérizet ? » répondit-il. « Eh, c'est mon gamin. Je l'ai formé, je l'ai eu pour teneur de copie, je l'ai mis à la casse, enfin il me doit d'être tout ce qu'il est. Autant demander à un père s'il est sûr de son enfant. » Ève apprit à son mari que Cérizet lisait des épreuves pour le compte des cointets. « Pauvre garçon, il faut bien qu'il vive, » répondit David avec l'humilité d'un maître qui se sentait en faute. « Oui, mais, mon ami, voici la différence qui existe entre Kolb et Cérizet. Kolb fait 20 lieues tous les jours, dépense 15 ou 20 sous, nous rapporte 7, 8, quelquefois 9 francs de feuilles vendues, et ne me demande que ses 20 sous, sa dépense payée. Kolb se couperait la main plutôt que de tirer le barreau d'une presse chez les cointets, et il ne regarderait pas les choses que tu jettes dans la cour quand on lui offrirait 1000 écus, tandis que Cérizet les ramasse et les examine. Les belles âmes arrivent difficilement à croire au mal, à l'ingratitude. Il leur faut de rudes leçons avant de reconnaître l'étendue de la corruption humaine. Puis, quand leur éducation, en ce genre, est faite, elles s'élèvent à une indulgence qui est le dernier degré du mépris. « Bah, pure curiosité de gamin de Paris !» s'écria donc David. « Eh bien, mon ami, fais-moi le plaisir de descendre à l'atelier, d'examiner ce que ton gamin a composé depuis 1 mois, et de me dire si, pendant ce mois, il n'aurait pas dû finir mon almanach. » Après le dîner, David reconnut que l'almanach aurait dû être composé en 8 jours. Puis, en apprenant que les cointets en préparaient un semblable, il vint au secours de sa femme. Il fit interrompre à Kolb la vente des feuilles d'images et dirigea tout dans son atelier. Il mit en train lui-même une forme que Kolb dut tirer avec Marion, tandis que lui-même tira l'autre avec Cérizet, en surveillant les impressions en encre de diverses couleurs. Chaque couleur exige une impression séparée. 4 encres différentes veulent donc 4 coups de presse. Imprimé 4 fois pour 1, l'almanach des bergers coûte alors tant à établir qu'il se fabrique exclusivement dans les ateliers de province où la main-d'œuvre et les intérêts du capital engagés dans l'imprimerie sont presque nuls. Ce produit, quelque grossier qu'il soit, est donc interdit aux imprimeries toutes sortes de beaux ouvrages. Pour la première fois depuis la retraite du vieux Séchard, on vit alors deux presses roulant dans ce vieil atelier. Quoique l'almanach fût dans son genre un chef-d'œuvre, néanmoins Ève fut obligée de le donner à 2 liards, car les frères Cointet donnèrent le leur à 3 centimes au colporteur. Elle fit ses frais avec le colportage, elle gagna sur les ventes directement faites par Kolb. Mais sa spéculation fut manquée. En se voyant devenu l'objet de la défiance de sa belle patronne, Cérizet se posa dans son fort intérieur en adversaire, et il se dit « Tu me soupçonnes, je me vengerai ». Le gamin est ainsi fait. Cérizet accepta donc de messieurs Cointet frères des émoluments évidemment trop forts pour la lecture des épreuves qu'il allait chercher à leur bureau tous les soirs et qu'il leur rendait tous les matins. En causant tous les jours davantage avec eux, il se familiarisa, finit par apercevoir la possibilité de se libérer du service militaire qu'on lui présentait comme à pas. Et, loin d'avoir à le corrompre, les Cointet entendirent de lui les premiers mots relativement à l'espionnage et à l'exploitation du secret que cherchait David. Inquiète en voyant combien elle devait peu compter sur Cérizet et dans l'impossibilité de trouver un autre Kolb, Ève résolut de renvoyer l'unique compositeur en qui sa seconde vue de femme aimante lui fit voir un traître. Mais, comme c'était la mort de son imprimerie, elle prit une résolution virile. Elle pria par une lettre M. Métivier, le correspondant de David Séchard, des Cointet et de presque tous les fabricants de papier du département, de faire mettre dans le journal de la librairie à Paris l'annonce suivante. « À céder, une imprimerie en pleine activité, matériel et brevet, située à Angoulême. S'adresser pour les conditions à M. Métivier, rue Serpente. » Après avoir lu le numéro du journal où se trouvait cette annonce, les Cointet se dirent « Cette petite femme ne manque pas de tête. Il est temps de nous rendre maître de son imprimerie en lui donnant de quoi vivre. Autrement, nous pourrions rencontrer un adversaire dans le successeur de David, et notre intérêt est de toujours avoir un œil dans cet atelier. » Mus par cette pensée, les frères Cointet vinrent parler à David Séchard. Ève, à qui les deux frères s'adressèrent, éprouva la plus vive joie en voyant le rapide effet de sa ruse, car ils ne lui cachèrent pas leur dessein de proposer à M. Séchard de faire des impressions à leur compte. Ils étaient encombrés, leur presse ne pouvait suffire à leurs travaux, ils avaient demandé des ouvriers à Bordeaux et se faisaient fort d'occuper les 3 presses de David. « Messieurs, dit-elle aux deux frères Cointet pendant que Cérizet allait avertir David de la visite de ses confrères, « mon mari a connu chez messieurs Didot d'excellents ouvriers probes et actifs. Il se choisira sans doute un successeur parmi les meilleurs. Ne vaut-il pas mieux vendre son établissement 20 000 francs qui nous donneront 1 000 francs de rente que de perdre 1 000 francs par an au métier que vous nous faites faire? Pourquoi nous avoir envié la pauvre petite spéculation de notre almanach, qui d'ailleurs appartenait à cette imprimerie? Et pourquoi, madame, ne pas nous en avoir prévenus? Nous ne serions pas allés sur vos brisées, dit gracieusement celui des deux frères qu'on appelait le grand Cointet. Allons donc, messieurs, vous n'avez commencé votre almanach qu'après avoir appris par Cérizet que je faisais le mien. En disant ces paroles vivement, elle regarda celui qu'on appelait le grand Cointet et lui fit baisser les yeux. Elle acquit ainsi la preuve de la trahison de Cérizet. Ce Cointet, le directeur de la papeterie et des affaires, était beaucoup plus habile commerçant que son frère Jean, qui conduisait d'ailleurs l'imprimerie avec une grande intelligence, mais dont la capacité pouvait se comparer à celle d'un colonel. Tandis que Boniface était un général auquel Jean laissait le commandement en chef. Boniface, homme sec et maigre, à figure jaune comme un cierge et marbré de plaques rouges, à bouche serrée et dont les yeux avaient de la ressemblance avec ceux des chats, ne s'emportait jamais. Il écoutait avec le calme d'un dévot les plus grosses injures et répondait d'une voix douce. Il allait à la messe, à confesse et communier. Il cachait sous ses manières patelines, sous un extérieur presque mou, la ténacité, l'ambition du prêtre et l'avidité du négociant dévoré par la soif des richesses et des honneurs. Dès 1820, le grand Cointet voulait tout ce que la bourgeoisie a fini par obtenir à la révolution de 1830. Plein de haine contre l'aristocratie, indifférent en matière de religion, il était dévot comme Bonaparte fut montagnard. son épine dorsale fléchissait avec une merveilleuse flexibilité devant la noblesse et l'administration pour lesquelles il se faisait petit, humble et complaisant. Enfin, pour peindre cet homme par un trait dont la valeur sera bien appréciée par des gens habitués à traiter les affaires, il portait des conserves à verre bleu, à l'aide desquelles il cachait son regard sous prétexte de préserver sa vue de l'éclatante réverbération de la lumière dans une ville où la terre, où les constructions sont blanches et où l'intensité du jour est augmentée par la grande élévation du sol. Quoique sa taille ne fût qu'un peu au-dessus de la moyenne, il paraissait grand à cause de sa maigreur, qui annonçait une nature accablée de travail, une pensée en continuelle fermentation. Sa physionomie jésuitique était complétée par une chevelure plate, grise, longue, taillée à la façon de celle des ecclésiastiques, et par son vêtement qui, depuis 7 ans, se composait d'un pantalon noir, de bas noirs, d'un gilet noir et d'une lévite, le nom méridional d'une redingote, en drap couleur marron. On l'appelait le grand Cointet pour le distinguer de son frère qu'on nommait le gros Cointet, en exprimant ainsi le contraste qui existait autant entre la taille qu'entre les capacités des deux frères, également redoutables d'ailleurs. En effet, Jean Cointet, bon gros garçon à face flamande, bruni par le soleil de l'Angoumois, petit et court, pansu comme Sancho, le sourire sur les lèvres, les épaules épaisses, produisait une opposition frappante avec son aîné. Jean ne différait pas seulement de physionomie et d'intelligence avec son frère, il professait des opinions presque libérales. Il était centre-gauche, n'allait à la messe que les dimanches et s'entendait à merveille avec les commerçants libéraux. Quelques négociants de l'Houmeau prétendaient que cette divergence d'opinion était un jeu joué par les deux frères. Le grand Cointet exploitait avec habileté l'apparente bonhomie de son frère. Il se servait de Jean comme d'une massue. Jean se chargeait des paroles dures, des exécutions qui répugnaient à la mansuétude de son frère. Jean avait le département des colères, il s'emportait, il laissait échapper des propositions inacceptables qui rendaient celles de son frère plus douces, et ils arrivaient ainsi, tôt ou tard, à leur fin. Ève, avec le tact particulier aux femmes, eut bientôt deviné le caractère des deux frères. Aussi resta-t-elle sur ses gardes en présence d'adversaires si dangereux. David, déjà mis au fait par sa femme, écouta d'un air profondément distrait les propositions de ses ennemis. « Entendez-vous avec ma femme ?» dit-il aux deux Cointet en sortant du cabinet vitré pour retourner dans son petit laboratoire. « Elle est plus au fait de mon imprimerie que je ne le suis moi-même. » Je m'occupe d'une affaire qui sera plus lucrative que ce pauvre établissement, et au moyen de laquelle je réparerai les pertes que j'ai faites avec vous. « Et comment ?» dit le gros Cointet en riant. Ève regarda son mari pour lui recommander la prudence. « Vous serez mes tributaires, vous et tous ceux qui consomment du papier, » répondit David. « Et que cherchez-vous donc ?» demanda Benoît Boniface Cointet. Quand Boniface eut lâché sa demande, d'un ton doux et d'une façon insinuante, Ève regarda de nouveau son mari pour l'engager à ne rien répondre ou à répondre quelque chose qui ne fût rien. « Je cherche à fabriquer le papier à 50% au-dessous du prix actuel de revient. » Et il s'en alla sans voir le regard que les deux frères échangèrent et par lequel il se disait « Cet homme devait être un inventeur. On ne pouvait pas avoir son encolure et rester oisif. » « Exploitons-le, » disait Boniface. « Et comment ?» disait Jean. « David agit avec vous comme avec moi, » dit Madame Séchard. « Quand je fais la curieuse, il se défie sans doute de mon nom et me jette cette phrase qui n'est après tout qu'un programme. Si votre mari peut réaliser ce programme, il fera certainement fortune plus rapidement que par l'imprimerie, et je ne m'étonne plus de lui voir négliger cet établissement, » reprit Boniface en se tournant vers l'atelier désert où Kolb, assis sur un ais, frottait son pain avec une gousse d'ail. « Mais il nous conviendrait peu de voir cette imprimerie aux mains d'un concurrent actif, remuant ambitieux, et peut-être pourrions-nous arriver à nous entendre. » Si, par exemple, vous consentiez à louer pour une certaine somme votre matériel à l'un de nos ouvriers qui travaillerait pour nous, sous votre nom, comme cela se fait à Paris, nous occuperions assez ce gars-là pour lui permettre de vous payer un très bon loyer et de réaliser de petits profits. « Cela dépend de la somme, » répondit Ève Séchard. « Que voulez-vous donner ? Ajouta-t-elle en regardant Boniface de manière à lui faire voir qu'elle comprenait parfaitement son plan. « Mais quelles seraient vos prétentions ? » répliqua vivement Jean Cointet. « 3 000 francs pour 6 mois, dit-elle. « Eh, ma chère petite dame, vous parliez de vendre votre imprimerie 20 000 francs, répliqua tout doucettement Boniface. « L'intérêt de 20 000 francs n'est que de 1 200 francs à 6%. » Ève resta pendant un moment tout interdite et reconnut alors tout le prix de la discrétion en affaires. « Vous vous servirez de nos presses, de nos caractères avec lesquels je vous ai prouvé que je savais faire encore de petites affaires, » reprit-elle, « et nous avons des loyers à payer à M. Séchard le père qui ne nous comble pas de cadeaux. » Après une lutte de 2 heures, Ève obtint 2 000 francs pour 6 mois, dont 1 000 seraient payés d'avance. Quand tout fut convenu, les deux frères lui apprirent que leur intention était de faire à Cérizet le bail des ustensiles de l'imprimerie. Ève ne put retenir un mouvement de surprise. « Ne vaut-il pas mieux prendre quelqu'un qui soit au fait de l'atelier ?» dit le gros Cointet. Ève salua les deux frères sans répondre et se promit de surveiller elle-même Cérizet. « Eh bien, voilà nos ennemis dans la place, » dit en riant David à sa femme, quand au moment du dîner elle lui montra les actes à signer. « Bah, » dit-elle, « je réponds de l'attachement de Kolb et de Marion. À eux deux, ils surveilleront tout. D'ailleurs, nous nous faisons 4 000 francs de rente d'un mobilier industriel qui nous coûtait de l'argent, et je te vois un an devant toi pour réaliser tes espérances. » « Tu devais être la femme d'un chercheur d'invention, » dit Séchard en serrant la main de sa femme avec tendresse. Si le ménage de David eut une somme suffisante pour passer l'hiver, il se trouva sous la surveillance de Cérizet et, sans le savoir, dans la dépendance du grand Cointet. « Ils sont à nous, » dit en sortant le directeur de la papeterie à son frère l'imprimeur. « Ces pauvres gens vont s'habituer à recevoir le loyer de leur imprimerie. Ils compteront là-dessus et ils s'endetteront. Dans 6 mois, nous ne renouvellerons pas le bail et nous verrons alors ce que cet homme de génie aura dans son sac. » car nous lui proposerons de le tirer de peine en nous associant pour exploiter sa découverte. Si quelque rusé commerçant avait pu voir le grand Cointet prononçant ces mots en nous associant, il aurait compris que le danger du mariage est encore moins grand à la mairie qu'au tribunal de commerce. N'était-ce pas trop déjà que ces féroces chasseurs fussent sur les traces de leur gibier ? David et sa femme, aidés par Kolb et par Marion, étaient-ils en état de résister aux ruses d'un Boniface Cointet? Quand l'époque des couches de Madame Séchard arriva, le billet de 500 francs envoyé par Lucien, joint au second paiement de Cérizet, permit de suffire à toutes les dépenses. Ève, sa mère et David, qui se croyaient oubliés par Lucien, éprouvèrent alors une joie égale à celle que leur donnaient les premiers succès du poète, dont les débuts dans le journalisme firent encore plus de tapage à Angoulême qu'à Paris. Fin de la 35e section.
Trente-sixième section de Scènes de la vie de province, tome 4, Illusion perdue, 3e partie, Ève et David, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Endormi dans une sécurité trompeuse, David chancela sur ses jambes en recevant de son beau-frère ce mot cruel. « Mon cher David, j'ai négocié chez Métivier 3 billets signés de toi, faits à mon ordre à 1, 2 et 3 mois d'échéance. Entre cette négociation et mon suicide, j'ai choisi cette horrible ressource qui, sans doute, te gênera beaucoup. Je t'expliquerai dans quelle nécessité je me trouve, et je tâcherai d'ailleurs de t'envoyer les fonds à l'échéance. Brûle ma lettre, ne dis rien ni à ma sœur ni à ma mère, car je t'avoue avoir compté sur ton héroïsme bien connu de « Ton frère au désespoir, Lucien de Rubempré ». Ton pauvre frère, dit David à sa femme, qui relevait alors de couche, est dans d'affreux embarras. Je lui ai envoyé 3 billets de 1 000 francs à 1, 2 et 3 mois. Prends en note. Puis il s'en alla dans les champs afin d'éviter les explications que sa femme allait lui demander. Mais, en commentant avec sa mère cette phrase pleine de malheur, Ève, déjà très inquiète du silence gardé par son frère depuis 6 mois,
eut de si mauvais pressentiments que, pour les dissiper, elle se résolut à faire une de ces démarches conseillées par le désespoir. Monsieur de Rastignac, fils, était venu passer quelques jours dans sa famille, et il avait parlé de Lucien en assez mauvais termes pour que ses nouvelles de Paris, commentées par toutes les bouches qui les avaient colportées, fussent arrivées jusqu'à la sœur et à la mère du journaliste. Ève alla chez madame de Rastignac, y sollicita la faveur d'une entrevue avec le fils à qui elle fit part de toutes ses craintes en lui demandant la vérité sur la situation de Lucien à Paris. En un moment, Ève apprit la liaison de son frère avec Coralie, son duel avec Michel Chrestien causé par sa trahison envers d'Arthez, enfin toutes les circonstances de la vie de Lucien envenimées par un dandy spirituel qui sut donner à sa haine et à son envie les livrées de la pitié. La forme amicale du patriotisme alarmée sur l'avenir d'un grand homme et les couleurs d'une admiration sincère pour le talent d'un enfant d'Angoulême si cruellement compromis. Il parla des fautes que Lucien avait commises et qui venaient de lui coûter la protection des plus hauts personnages, de faire déchirer une ordonnance qui lui conférait les armes et le nom de Rubempré. « Madame, si votre frère eût été bien conseillé, il serait aujourd'hui dans la voie des honneurs et le mari de madame de Bargeton. Mais que voulez-vous ? Il l'a quittée, insultée. Elle est, à son grand regret, devenue madame la comtesse Sixte du Châtelet, car elle aimait Lucien. « Est-il possible ? » s'écria madame Séchard. « Votre frère est un aiglon que les premiers rayons du luxe et de la gloire ont aveuglé. Quand un aigle tombe, qui peut savoir au fond de quel précipice il s'arrêtera ? La chute d'un grand homme est toujours en raison de la hauteur à laquelle il est parvenu. » Ève revint épouvantée avec cette dernière phrase qui lui traversa le cœur comme une flèche. Blessée dans les endroits les plus sensibles de son âme, elle garda chez elle le plus profond silence. Mais plus d'une larme roula sur les joues et sur le front de l'enfant qu'elle nourrissait. Il est si difficile de renoncer aux illusions que l'esprit de famille autorise et qui naissent avec la vie, qu'Ève se défia d'Eugène de Rastignac. Elle voulut entendre la voix d'un véritable ami. Elle écrivit donc une lettre touchante à d'Arthez, dont l'adresse lui avait été donnée par Lucien, au temps où Lucien était enthousiaste du Cénacle. Et voici la réponse qu'elle reçut. « Madame, vous me demandez la vérité sur la vie que mène à Paris monsieur votre frère. Vous voulez être éclairé sur son avenir. » Et pour m'engager à vous répondre franchement, vous me répétez ce que vous en a dit monsieur de Rastignac, en me demandant si de tels faits sont vrais. En ce qui me concerne, madame, il faut rectifier, à l'avantage de Lucien, les confidences de monsieur de Rastignac. Votre frère a éprouvé des remords. Il est venu me montrer la critique de mon livre en me disant qu'il ne pouvait se résoudre à la publier, malgré le danger que sa désobéissance aux ordres de son parti faisait courir à une personne bien chère. Hélas, madame, la tâche d'un écrivain est de concevoir les passions, puisqu'il met sa gloire à les exprimer. J'ai donc compris qu'entre une maîtresse et un ami, l'ami devait être sacrifié. J'ai facilité son crime à votre frère, j'ai corrigé moi-même cet article libellicide et l'ai complètement approuvé. Vous me demandez si Lucien a conservé mon estime et mon amitié. Ici, la réponse est difficile à faire. Votre frère est dans une voie où il se perdra. En ce moment, je le plains encore. Bientôt, je l'aurai volontairement oublié, non pas tant à cause de ce qu'il a déjà fait que de ce qu'il doit faire. Votre Lucien est un homme de poésie et non un poète. Il rêve et ne pense pas. Il s'agite et ne crée pas. Enfin, c'est, permettez-moi de le dire, une femmelette qui aime à paraître, le vice principal du français. Ainsi, Lucien sacrifiera toujours le meilleur de ses amis au plaisir de montrer son esprit. Il signerait volontiers demain un pacte avec le démon, si ce pacte lui donnait pour quelques années une vie brillante et luxueuse. N'a-t-il pas déjà fait pis en troquant son avenir contre les passagères délices de sa vie publique avec une actrice? En ce moment, la jeunesse, la beauté, le dévouement de cette femme, car il en est adoré, lui cache les dangers d'une situation que ni la gloire, ni le succès, ni la fortune ne font accepter par le monde. Eh bien, à chaque nouvelle séduction, votre frère ne verra, comme aujourd'hui, que les plaisirs du moment. Rassurez-vous, Lucien n'ira jamais jusqu'au crime. Il n'en aurait pas la force. Mais il accepterait un crime tout fait. Il en partagerait les profits sans en avoir partagé les dangers, ce qui semble horrible à tout le monde. Même au scélérat. Il se méprisera lui-même. Il se repentira. Mais la nécessité revenant, il recommencerait, car la volonté lui manque. Il est sans force contre les amorces de la volupté, contre la satisfaction de ses moindres ambitions. Paresseux comme tous les hommes à poésie, il se croit habile en escamotant les difficultés au lieu de les vaincre. Il aura du courage à telle heure, mais à telle autre il sera lâche. Et il ne faut pas plus lui savoir gré de son courage que lui reprocher sa lâcheté. Lucien est une harpe dont les cordes se tendent ou s'amollissent au gré des variations de l'atmosphère. Il pourra faire un beau livre dans une phase de colère ou de bonheur, et ne pas être sensible au succès, après l'avoir cependant désiré. Dès les premiers jours de son arrivée à Paris, il est tombé dans la dépendance d'un jeune homme sans moralité, mais dont l'adresse et l'expérience au milieu des difficultés de la vie littéraire l'ont ébloui. Ce prestidigitateur a complètement séduit Lucien. Il l'a entraîné dans une existence sans dignité sur laquelle, malheureusement pour lui, l'amour a jeté ses prestiges. Trop facilement accordée, l'admiration est un signe de faiblesse. On ne doit pas payer en même monnaie un danseur de cordes et un poète. Nous avons été tous blessés de la préférence accordée à l'intrigue et à la friponnerie littéraire, sur le courage et sur l'honneur de ceux qui conseillaient à Lucien d'accepter le combat au lieu de dérober le succès, de se jeter dans l'arène au lieu de se faire un des trompettes de l'orchestre. La société, madame, est, par une bizarrerie singulière, pleine d'indulgence pour les jeunes gens de cette nature. Elle les aime, elle se laisse prendre au beau semblant de leurs dons extérieurs. D'eux, elle n'exige rien. Elle excuse toutes leurs fautes, elle leur accorde les bénéfices des natures complètes en ne voulant voir que leurs avantages. Elle en fait enfin ses enfants gâtés. Au contraire, elle est d'une sévérité sans bornes pour les natures fortes et complètes. Dans cette conduite, la société, si violemment injuste en apparence, est peut-être sublime. Elle s'amuse des bouffons sans leur demander autre chose que du plaisir et les oublie promptement. Tandis que pour plier le genou devant la grandeur, elle lui demande toutes ses divines magnificences. À chaque chose, sa loi. L'éternel diamant doit être sans tache. La création momentanée de la mode a le droit d'être légère, bizarre et sans consistance. Aussi, malgré ses erreurs, peut-être Lucien réussira-t-il à merveille. Il lui suffira de profiter de quelques veines heureuses ou de se trouver en bonne compagnie. Mais s'il rencontre un mauvais ange, il ira jusqu'au fond de l'enfer. C'est un brillant assemblage de belles qualités brodées sur un fond trop léger. L'âge emporte les fleurs. Il ne reste un jour que le tissu. Et, s'il est mauvais, on y voit un haillon. Tant que Lucien sera jeune, il plaira. Mais à 30 ans, dans quelle position sera-t-il? Telle est la question que doivent se faire ceux qui l'aiment sincèrement. Si j'eusse été seul à penser ainsi de Lucien, peut-être aurais-je évité de vous donner tant de chagrin par ma sincérité. Mais outre qu'éluder par des banalités les questions posées par votre sollicitude me semblait indigne de vous, dont la lettre est un cri d'angoisse, et de moi, dont vous faites trop d'estime. Ceux de mes amis qui ont connu Lucien sont unanimes en ce jugement. J'ai donc vu l'accomplissement d'un devoir dans la manifestation de la vérité, quelque terrible qu'elle soit. On peut tout attendre de Lucien, en bien comme en mal. Telle est notre pensée, en un seul mot, où se résume cette lettre. Si les hasards de sa vie, maintenant bien misérable, bien chanceuse, ramenaient ce poète vers vous, usez de toute votre influence pour le garder au sein de la famille, car jusqu'à ce que son caractère ait pris de la fermeté, Paris sera toujours dangereux pour lui. Il vous appelait, vous et votre mari, ses anges gardiens, et il vous a sans doute oublié. Mais il se souviendra de vous au moment où, battu par la tempête, il n'aura plus que sa famille pour asile. Gardez-lui donc votre cœur, madame, il en aura besoin. Agréez, madame, les sincères hommages d'un homme à qui vos précieuses qualités sont connues et qui respecte trop vos maternelles inquiétudes pour ne pas vous offrir ici ses obéissances en se disant « Votre dévoué serviteur, d'Arthez ». Deux jours après avoir lu cette réponse, Ève fut obligée de prendre une nourrice. Son lait tarissait. Après avoir fait un dieu de son frère, elle le voyait dépravé par l'exercice des plus belles facultés. Enfin, pour elle, il roulait dans la boue. Cette noble créature ne savait pas transiger avec la probité, avec la délicatesse, avec toutes les religions domestiques cultivées au foyer de la famille, encore si pure, si rayonnant au fond de la province. David avait donc eu raison dans ses prévisions. Quand le chagrin, qui mettait sur son front si blanc des teintes de plomb, fut confié par Ève à son mari dans une de ces limpides conversations où le ménage de deux amants peut tout se dire, David fit entendre de consolantes paroles. Quoiqu'il eût les larmes aux yeux, en voyant le beau sein de sa femme tari par la douleur et cette mère au désespoir de ne pouvoir accomplir son œuvre maternelle, il rassura sa femme en lui donnant quelques espérances. « Vois-tu, mon enfant, ton frère a péché par l'imagination. Il est si naturel à un poète de vouloir sa robe de pourpre et d'azur. Il court avec tant d'empressement aux fêtes. Cet oiseau se prend à l'éclat, au luxe, avec tant de bonne foi que Dieu l'excuse là où la société le condamne. « Mais il nous tue !» s'écria la pauvre femme. Il nous tue aujourd'hui comme il nous sauvait il y a quelques mois en nous envoyant les prémices de son gain, répondit le bon David, qui eut l'esprit de comprendre que le désespoir menait sa femme au-delà des bornes et qu'elle reviendrait bientôt à son amour pour Lucien. Mercier disait dans son tableau de Paris il y a environ 50 ans que la littérature, la poésie, les lettres et les sciences, que les créations du cerveau, ne pouvait jamais nourrir un homme, et Lucien, en sa qualité de poète, n'a pas cru à l'expérience de 5 siècles. Les moissons arrosées d'encre ne se font, quand elles se font, que 10 ou 12 ans après les semailles, et Lucien a pris l'herbe pour la gerbe. Il aura du moins appris la vie. Après avoir été la dupe d'une femme, il devait être la dupe du monde et des fausses amitiés. L'expérience qu'il a gagnée est chèrement payée, voilà tout. Nos ancêtres disaient, pourvu qu'un fils de famille revienne avec ses 2 oreilles et l'honneur sauf, tout est bien. L'honneur, s'écria la pauvre Ève, hélas, à combien de vertus Lucien a-t-il manqué? Écrire contre sa conscience, attaquer son meilleur ami, accepter l'argent d'une actrice, se montrer avec elle? Nous mettre sur la paille ? Oh, cela ce n'est rien, s'écria David qui s'arrêta. Le secret du faux commis par son beau-frère allait lui échapper, et malheureusement Ève, en s'apercevant de ce mouvement, conserva de vagues inquiétudes. Comment rien ? Répondit-elle, et où prendrons-nous de quoi payer 3 000 francs ? D'abord, reprit David, nous allons avoir à renouveler le bail de l'exploitation de notre imprimerie avec Cérizet. Depuis 6 mois, les 15% que les Cointet lui allouent sur les travaux faits pour eux lui ont donné 600 francs, et il a su gagner 500 francs avec des ouvrages de ville. Si les Cointet savent cela, peut-être ne recommenceront-ils pas le bail. Ils auront peur de lui, dit Ève, car Cérizet est un homme dangereux. « Et que m'importe ? » s'écria Séchard, « dans quelques jours, nous serons riches. Une fois Lucien riche, mon ange, il n'aura que des vertus. »« Ah, David, mon ami, quel mot viens-tu de laisser échapper ? En proie à la misère, Lucien serait donc sans force contre le mal ? Tu penses de lui tout ce qu'en pense Monsieur d'Arthez? Il n'y a pas de supériorité sans force, et Lucien est faible, un ange qu'il ne faut pas tenter. Qu'est-ce? Eh, c'est une nature qui n'est belle que dans son milieu, dans sa sphère, dans son ciel. Lucien n'est pas fait pour lutter. Je lui épargnerai la lutte. Tiens, vois. Je suis trop près du résultat pour ne pas t'initier aux moyens. Il sortit de sa poche plusieurs feuillets de papier blanc de la grandeur d'un in-octavo, les brandit victorieusement et les apporta sur les genoux de sa femme. Une rame de ce papier, format grand raisin, ne coûtera pas plus de 5 francs, dit-il, en faisant manier les échantillons à Ève, qui laissait voir une surprise enfantine à l'aspect d'une si petite chose apportée comme preuve de résultats si grands. À une question de sa femme, qui ne savait pas ce que voulait dire ce mot « grand raisin », Séchard lui donna, sur la papeterie, des renseignements qui ne seront point déplacés dans une œuvre dont l'existence matérielle est due autant au papier qu'à la presse. Le papier, produit non moins merveilleux que l'impression à laquelle il sert de base, existait depuis longtemps en Chine quand, par les filières souterraines du commerce, il parvint dans l'Asie mineure où, vers l'an 750, selon quelques traditions, on faisait usage d'un papier de coton broyé et réduit en bouillie. La nécessité de remplacer le parchemin dont le prix était excessif fit trouver, par une imitation du papier bombicien, tel fut le nom du papier de coton en Orient, le papier de chiffon, les uns disent à Bâle en 1170, par des Grecs réfugiés, les autres disent à Padoue, en 1301, par un Italien nommé Pax. Ainsi, le papier se perfectionna lentement et obscurément. Mais il est certain que, déjà sous Charles VI, on fabriquait à Paris la pâte des cartes à jouer. Lorsque les immortels Faust, Coster et Gutenberg eurent inventé le livre, des artisans, inconnus comme tant de grands artistes de cette époque, approprièrent la papeterie aux besoins de la typographie. Dans ce 15e siècle, si vigoureux et si naïf, les noms des différents formats de papier, de même que les noms donnés aux caractères, portèrent l'empreinte de la naïveté du temps. Ainsi, le raisin, le Jésus, le colombier, le papier pot, l'écu, le coquille, le couronne furent ainsi nommés de la grappe, de l'image de notre Seigneur, de la couronne, de l'écu, du pot, enfin du filigrane marqué au milieu de la feuille, comme plus tard, sous Napoléon, on y mit un aigle. D'où le papier dit grand aigle. De même, on appela les caractères Cicéro, Saint-Augustin, Gros Canon, des livres de liturgie, des œuvres théologiques et des traités de Cicéron auxquels ces caractères furent d'abord employés. L'italique fut inventé par les Aldes, à Venise, de là son nom. Avant l'invention du papier mécanique, dont la longueur est sans limite, les plus grands formats étaient le Grand Jésus ou le Grand Colombier. Encore, ce dernier ne servait guère que pour les atlas ou pour les gravures. En effet, les dimensions du papier d'impression étaient soumises à celles des marbres de la presse. À l'époque où Séchard cherchait à résoudre le problème de la fabrication du papier à bon marché, l'existence du papier continu paraissait une chimère en France, quoique déjà Denis Robert d'Essonne eût, vers 1799, inventé pour le fabriquer une machine que depuis Didot Saint-Léger essaya de perfectionner. Le papier vélin, inventé par Ambroise Didot, ne date que de 1780. Ce rapide aperçu démontre invinciblement que toutes les grandes acquisitions de l'industrie et de l'intelligence se sont faites avec une excessive lenteur et par des agrégations inaperçues, absolument comme procède la nature. Pour arriver à leur perfection, l'écriture, le langage, peut-être, ont eu les mêmes tâtonnements que la typographie et la papeterie. Des chiffonniers ramassent dans l'Europe entière les chiffons, les vieux linges et achètent les débris de toute espèce de tissu, dit Séchard à sa femme en terminant. Ces débris, triés par sorte, s'emmagasinent chez les marchands de chiffons, en gros, qui fournissent les papeteries. Pour te donner une idée de ce commerce, apprends, mon enfant, qu'en 1814, le banquier Cardon, propriétaire des cuves de Buges et de Langlais, où Léorier de Lille essaya dès 1776 la solution du problème dont s'occupa ton père, avait un procès avec un sieur Proust à propos d'une erreur de 2 millions pesant de chiffons dans un compte de 10 millions de livres, environ 4 millions de francs. Le fabricant lave ses chiffons et les réduit en une bouillie claire qui se passe absolument comme une cuisinière passe une sauce à son tamis, sur un châssis en fer appelé « forme » et dont l'intérieur est rempli par une étoffe métallique au milieu de laquelle se trouve le filigrane qui donne son nom au papier. De la grandeur de la forme dépend alors la grandeur du papier. « Eh bien, comment as-tu fait ces essais ?» dit Ève à David. « Avec un vieux tamis en crin que j'ai pris à Marion, » répondit-il. « Tu n'es donc pas encore content ?» demanda-t-elle. « La question n'est pas dans la fabrication, elle est dans le prix de revient de la pâte, car je ne suis qu'un des derniers entrés dans cette voie difficile. Madame Masson, dès 1794, essayait de convertir les papiers imprimés en papier blanc. Elle a réussi, mais à quel prix ? En Angleterre, vers 1800, le marquis de Salisbury tentait, en même temps que Séguin en 1801 en France, d'employer la paille à la fabrication du papier. Une foule de grands esprits a tourné autour de l'idée que je veux réaliser. Dans le temps où j'étais chez messieurs Didot, on s'en occupait déjà comme on s'en occupe encore, car aujourd'hui, le perfectionnement cherché par ton père est devenu l'une des nécessités les plus impérieuses de ce temps-ci. Voici pourquoi. Le linge de fil est, à cause de sa cherté, remplacé par le linge de coton. Quoique la durée du fil, comparée à celle du coton, rende, en définitive, le fil moins cher que le coton, comme il s'agit toujours pour les pauvres de sortir une somme quelconque de leur poche, ils préfèrent donner moins que plus et subissent, en vertu du vae victis, des pertes énormes. La classe bourgeoise agit comme le pauvre. Ainsi, le linge de fil va manquer et l'on sera forcé de se servir de chiffons de coton. Aussi, l'Angleterre, où le coton a remplacé le fil chez les 4/5 de la population, a-t-elle commencé à fabriquer le papier de coton. Ce papier, qui, d'abord, a l'inconvénient de se couper et de se casser, se dissout dans l'eau si facilement qu'un livre en papier de coton s'y mettrait en bouillie en y restant un quart d'heure, tandis qu'un vieux livre ne serait pas perdu en y restant 2 heures. On ferait sécher le vieux livre et, quoique jauni, passé, le texte en serait encore lisible. L'œuvre ne serait pas détruite. Nous arrivons à un temps où, les fortunes diminuant par leur égalisation, tout s'appauvrira. Nous voudrons du linge et des livres, à bon marché, comme on commence à vouloir de petits tableaux, faute d'espace pour en placer de grands. Les chemises et les livres ne dureront pas. Voilà tout. La solidité des produits s'en va de toutes parts. Aussi, le problème à résoudre est-il de la plus haute importance pour la littérature, pour les sciences et pour la politique. Il y eut donc un jour dans mon cabinet une vive discussion sur les ingrédients dont on se sert en Chine pour fabriquer le papier. Là, grâce aux matières premières, la papeterie a, dès son origine, atteint une perfection qui manque à la nôtre. On s'occupait alors beaucoup du papier de Chine, que sa légèreté, sa finesse, rendent bien supérieure au nôtre. Car ses précieuses qualités ne l'empêchent pas d'être consistant, et, quelque mince qu'il soit, il n'offre aucune transparence. Un correcteur très instruit, à Paris il se rencontre des savants, parmi les correcteurs, Fourier et Pierre Leroux sont en ce moment correcteurs chez Lachevardière. Donc le comte de Saint-Simon, correcteur pour le moment, vint nous voir au milieu de la discussion. Il nous dit alors que, selon Kempfer et Duhalde, le « Broussonatia » fournissait aux Chinois la matière de leur papier, tout végétal, comme le nôtre d'ailleurs. Un autre correcteur soutint que le papier de Chine se fabriquait principalement avec une matière animale, avec la soie, si abondante en Chine. Un pari se fit devant moi. Comme messieurs Didot sont les imprimeurs de l'Institut, naturellement le débat fut soumis à des membres de cette assemblée de savants. Monsieur Marcel, ancien directeur de l'imprimerie impériale, désigné comme arbitre, renvoya les deux correcteurs par-devant monsieur l'abbé Grozier, bibliothécaire à l'Arsenal. Au jugement de l'abbé Grozier, les correcteurs perdirent tous deux leur pari. Le papier de Chine ne se fabrique ni avec de la soie, ni avec le broussonatia. Sa pâte provient des fibres du bambou trituré. L'abbé Grozier possédait un livre chinois, ouvrage à la fois iconographique et technologique, où se trouvaient de nombreuses figures représentant la fabrication du papier dans toutes ses phases, et il nous montra les tiges de bambou peintes en tas dans le coin d'un atelier à papier supérieurement dessiné. Quand Lucien m'a dit que ton père, par une sorte d'intuition particulière aux hommes de talent, avait entrevu le moyen de remplacer les débris du linge par une matière végétale excessivement commune, immédiatement prise à la production territoriale, comme font les Chinois en se servant de tiges fibreuses, j'ai classé tous les essais tentés par mes prédécesseurs en les répétant, et je me suis mis enfin à étudier la question. Le bambou est un roseau. J'ai naturellement pensé au roseau de notre pays. Notre roseau commun, l'Arundo phragmitis, a fourni les feuilles de papier que tu tiens. Mais je vais employer les orties, les chardons, car pour maintenir le bon marché de la matière première, il faut s'adresser à des substances végétales qui puissent venir dans les marécages et dans les mauvais terrains. Elles seront à vil prix. Le secret gît tout entier dans une préparation à donner à ces tiges. En ce moment, mon procédé n'est pas encore assez simple. La main-d'œuvre n'est rien en Chine. Une journée y vaut 3 sous. Aussi les Chinois peuvent-ils, au sortir de la forme, appliquer leur papier feuille à feuille entre des tables de porcelaine blanche chauffées, au moyen desquelles ils le pressent et lui donnent ce lustre, cette consistance, cette légèreté, cette douceur de satin, qui en font le premier papier du monde. Eh bien, il faut remplacer les procédés du chinois par quelques machines. On arrive, par des machines, à résoudre le problème du bon marché que procure à la Chine le bas prix de sa main-d'œuvre. Si nous parvenions à fabriquer à bas prix du papier d'une qualité semblable à celui de la Chine, nous diminuerions de plus de moitié le poids et l'épaisseur des livres. Un Voltaire relié, qui, sur nos papiers vélins, pèse 250 livres, n'en pèserait pas 50 sur papier de Chine. Et voilà, certes, une conquête. L'emplacement nécessaire aux bibliothèques sera une question de plus en plus difficile à résoudre à une époque où le rapetissement général des choses et des hommes atteint tout, jusqu'à leurs habitations. À Paris, les grands hôtels, les grands appartements seront tôt ou tard démolis. Il n'y aura bientôt plus de fortune en harmonie avec les constructions de nos pères. Quelle honte pour notre époque de fabriquer des livres sans durée. Encore 10 ans et le papier de Hollande, c'est-à-dire le papier fait en chiffon de fil, sera complètement impossible. Je veux y aviser et donner à la fabrication du papier en France le privilège dont jouit notre littérature, en faire un monopole pour notre pays, comme les Anglais ont celui du fer, de la houille ou des poteries communes. Je veux être le Jacquard de la papeterie. Ève se leva, mue par un enthousiasme et par une admiration que la simplicité de David excitait. Elle ouvrit ses bras et le serra sur son cœur en penchant sa tête sur son épaule. « Tu me récompenses comme si j'avais déjà trouvé, » lui dit-il. Pour toute réponse, Ève montra sa belle figure tout inondée de larmes et resta pendant un moment sans pouvoir parler. « Je n'embrasse pas l'homme de génie, » dit-elle, « mais le consolateur. À une gloire tombée, tu m'opposes une gloire qui s'élève. Au chagrin que me cause l'abaissement d'un frère, tu opposes la grandeur du mari. » « Oui. » tu seras grand comme les Grindorge, les Rouvet, les Vendrobé, comme le persan qui nous a donné la Garance, comme tous ces hommes dont tu m'as parlé, dont les noms restent obscurs parce qu'en perfectionnant une industrie, ils ont fait le bien sans éclat. Fin de la 36e section.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.